On a parlé des grandes vertus, on va les appeler comme ça, des grandes vertus depuis le début de l'année. Il y a eu les vertus cardinales, les quatre points cardinaux, la prudence, la justice, la force, la tempérance. Il y avait les vertus théologales, je n'ai pas beaucoup développé parce qu'on avait déjà parlé de la foi pendant toute une année, de l'espérance pendant toute une année, je me suis dit, voilà. Et puis après, on a parlé de l'humilité. Et là, j'ai mis comme titre la cordialité et la bienveillance. Alors en fait, je vais parler ni de la cordialité ni de la bienveillance, mais un peu quand même, dans le sens où je désire parler aujourd'hui plutôt des vertus qui peuvent apparaître très modestes, mais qui changent tout dans nos relations en famille, en communauté. Je ne sais pas si on peut les appeler des vertus sociales, mais c'est les vertus qui concernent nos relations mutuelles. Et je voulais terminer cette année par ces vertus. Alors, c'est des vertus, donc ça veut dire que ça se travaille. Alors, il y a des choses qui sont plus ou moins innées en nous, peut-être certaines, selon notre personnalité. On a plus de facilité pour certaines vertus et puis plus de difficultés pour d'autres. Mais ça se travaille, donc ça veut dire que on peut, voilà, c'est pas juste une photographie de ce qui est, mais c'est vraiment quelque chose pour nous inviter à aller de l'avant. C'est en quelque sorte, on pourrait dire, des servantes de la grande vertu de la charité. Alors je vous cite saint Paul. Par-dessus toutes ces choses, là il vient de parler de la tendresse, de la bonté, de la patience, de l'humilité, du pardon. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Voilà, alors c'est toutes ces choses dont je vais vous parler. Alors, je ne vais pas parler de la tendresse ici, mais de la bonté, oui, de la patience, oui. L'humilité, j'en ai déjà parlé, du pardon, voilà. Mais aussi pour une autre... Je ne sais pas si vous vous rappelez de la deuxième lecture du jour de Pâques. Ça revient tous les ans pareil. Hein, c'est de la lettre de saint Paul aux Colossiens. C'est les quatre premiers versets, je crois, du chapitre 3. Et alors, saint Paul parle des réalités d'en haut. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réalités d'en haut ? Alors, je vous cite, « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » Alors, ces réalités d'en haut, en fait, c'est toutes ces petites vertus. Si vous connaissez un peu les épîtres de saint Paul, assez souvent, dans les épîtres de saint Paul, il y a deux parties. Alors, vous pensez à l'épître aux Romains, c'est assez clair, c'est très clair dans l'épître aux Romains, mais c'est vrai aussi d'autres épîtres de saint Paul. Et c'est d'abord une contemplation du mystère de Dieu. Alors, pour l'épître aux Romains, c'est surtout les 11 premiers chapitres. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la parénèse. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce mot-là, mais la parénèse, c'est plus un discours d'ordre moral, pas moralisant, mais moral. Quelque part, la première partie, saint Paul contemple le mystère de Dieu. Et la deuxième partie, c'est comment le mystère de Dieu se traduit dans notre vie. Et du coup, il se traduit entre autres par ses vertus qui peuvent paraître très humbles. Hein, c'est la bonté, je vais vous parler de la gentillesse. Bon, mais en même temps, ce qui est étonnant, quand saint Paul parle de l'hymne à la charité... Mais je vais vous citer, oui c'est ça, l'hymne à la charité, les versets 4 à 7, c'est pas des vertus extraordinaires où on escalade l'Everest ou l'Himalaya, hein. Je vous cite dans l'hymne à la charité, hein, qui est donc dans cette partie de la parénèse. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, Il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. Voilà, c'est toutes ces petites vertus, c'est peut-être bien, mais qui sont les composantes de la charité, on va dire, hein, telle ou telle facette de la charité. Ou alors, si vous, pour prendre les choses sous un angle un peu différent, quels sont les fruits de l'Esprit ? Alors, il y a les dons de l'Esprit Saint, mais les fruits de l'Esprit. C'est l'heure de la sieste, ça va ? Vous me suivez encore ? Bon, les fruits de l'Esprit, alors là encore, ce n'est pas des vertus musclées en quelque sorte. C'est des choses qui peuvent paraître très simples. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Voilà. Ça, c'est les fruits de l'Esprit. Donc, finalement, ces vertus, alors qu'ils peuvent, l'Esprit Saint peut agir en nous pour que nous aider à mieux vivre ces vertus, mais c'est des vertus très simples que je vais développer. Je m'inspire principalement du pape François, entre autres, en tout cas, le pape François dans sa lettre pour les familles. Donc c'est le chapitre 4, si mes souvenirs sont bons, de Amoris Laetitia. C'est un commentaire justement de l'hymne à la charité. Alors je vais souvent me référer au pape François, c'est les numéros, si je ne me trompe, 89 à 119. Alors cette fois-ci, il n'y aura pas trois parties, mais cinq parties. Et dans chaque partie, pour que vous ne soyez pas perdus, j'aurai trois parties. Bon, trois petites parties. Voilà, donc cinq parties. Je vais vous parler de l'accueil. C'est l'entrée en relation. Les vertus qui concernent l'accueil et l'entrée en relation, on va dire. Là, une deuxième partie, ça sera sur la gentillesse. Ça peut paraître un peu bené, quelquefois, la gentillesse comme ça, mais c'est quand même plus sympathique d'avoir des gens gentils. Voilà. Le service, ça sera la troisième partie. La gratitude, ça sera la quatrième partie. Et la patience, la cinquième partie. Je ne sais pas si vous en avez besoin. Mais nous, ça nous sert quelquefois en communauté. Voilà. Alors donc, l'accueil, donc, c'est ce moment où on entre en relation. Et là, il y a déjà ces petites vertus, si je puis dire, pour une manière d'entrer en relation. Ce qui est important, parce que la relation, pour nous chrétiens, c'est pas rien, parce que Dieu n'est pas un être solitaire. Dieu, c'est trois personnes, et ce que dit la théologie, la savante théologie, ce sont des relations subsistantes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc le fait d'entrer en relation, c'est pas, alors c'est une chose tout à fait humaine aussi, mais c'est quand même quelque chose qui nous renvoie quand même au mystère de Dieu, où les trois personnes sont en relation. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui ne voudrait pas avoir de relation, ça serait un peu compliqué. Alors, il y a des ermites, vous me direz, mais normalement, un vrai ermite, il a d'abord vécu en communauté. C'est pas pour fuir les gens et pour s'isoler et puis être... alors, ça peut être pour s'isoler, pour prier, mais en emmenant les gens dans sa prière. Pas pour un peu comme les pharisiens qui se démarquaient des autres. Non, vraiment, la relation, c'est quelque chose d'important pour nous chrétiens. C'est pas quelque chose d'un peu accessoire ou voilà. Alors, entrer en relation. Alors, j'ai pris trois choses. J'espère que je vous saoule pas avec toutes mes subdivisions, tout ça. Voilà. C'est d'abord une forme d'ouverture à l'autre. Quand on est en face de quelqu'un, on sent plus ou moins si la personne a envie d'entrer en relation avec nous ou pas du tout. Mais il y a une manière de... Avant même que ça s'exprime sur notre visage, c'est est-ce qu'on a envie d'entrer en relation avec les autres. Certains moments, en particulier les hommes, On aime bien aller un peu dans notre grotte, être un peu tranquille, mais bon, ça c'est passager, normalement c'est pas tout le temps. Mais du coup, c'est entrer en relation, c'est aussi se décentrer de soi-même, c'est toutes ces attitudes où on accepte aussi que l'autre, il a le droit d'être différent. Et d'entrer en relation, même si l'autre n'est pas de mon milieu, n'est pas de ma culture, n'est pas de, je sais pas, de ma couleur de peau, ou je sais pas. Entrer en relation, c'est vraiment se décentrer de soi-même pour, et puis avoir un a priori favorable sur l'autre. Quelquefois, on sent, vis-à-vis de certaines personnes, on se sent jugé. Alors, on n'a pas envie d'aller. On n'a pas du tout envie d'y aller. Donc, cette attitude d'accueil, c'est une ouverture vraiment où on accueille l'autre, on a un a priori favorable sur l'autre, une bienveillance, j'aurais employé le mot au moins une fois, une bienveillance, et je pense que ça, c'est toute cette attitude déjà pour entrer en relation, c'est d'ouvrir son cœur, d'avoir un cœur catholique, catholique dans le sens universel, je ne me ferme pas aux autres. On voit bien que certaines fois on est un peu fermé, et puis voilà. Toujours dans pour entrer en relation, alors je parle du sourire. Alors, moi j'ai pas trop de mal parce que depuis que je suis petit, donc c'est quasiment naturel. Peut-être pas tous les jours, mais en même temps, je pense que c'est important. On dit souvent, on n'est pas responsable de la tête qu'on a, mais de la tête qu'on fait. Mais ça reste vrai, parce que sourire, c'est quand même un acte qu'on pose. C'est quand même un acte qu'on pose pour... je pense à une dame, une mère de famille, qui était malentendante. Et pour elle, elle voulait que ses enfants lui sourient. Mais aussi, c'est vrai que c'était compliqué. Et quand il faisait la tête, pour elle, c'était horrible. C'est jamais agréable, mais peut-être encore plus parce que la communication était un peu plus difficile à cause de sa surdité. Et on voit bien que si vous êtes dans une rame de métro où tout le monde fait la tête, parce que tout le monde a des soucis, bien entendu, vous vous sentez pas pareil que dans un lieu où tout le monde a le sourire aux lèvres. J'ai un souvenir, c'était dans le hall d'entrée. Il y avait un garçon autiste, je ne sais pas quel âge il avait, 12, 13 ans, enfin je ne sais plus exactement. Et habituellement, son visage était assez fermé, on ne savait pas s'il y a quelqu'un derrière. Je l'exprime avec mes mots. Est entré dans le hall quelqu'un qui s'était occupé de lui pendant des années, pendant pas mal de temps, et qu'il aimait beaucoup. D'un seul coup, son visage, il y a eu un sourire, mais c'était plus la même personne, c'était impressionnant. On voyait qu'il y avait quelqu'un de vivant, là, tandis que sinon, c'était compliqué d'entrer en relation avec ce garçon. Mais c'était très, très impressionnant. C'était simplement un sourire, parce qu'après, le langage, c'était un peu compliqué pour lui, mais... ça m'avait beaucoup marqué aussi. Alors, hélas, il peut y avoir des gens qui se servent du sourire pour de manière malhonnête, mais en même temps, on sent bien que le sourire, ça peut désarmer des gens. Je pense quand on va évangéliser dans la rue, souvent, ça leur coupe l'herbe sous le pied si on leur fait un grand sourire, et puis on entre plus facilement en relation. Alors. J'ai plein de citations sur le sourire, mais je vais pas vous. Je vais vous en donner une de la bienheureuse Ursule. Le sourire disperse les nuages accumulés dans l'âme. Alors, Raoul Polro a des belles phrases. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Il est le signe sensible de l'amitié. Il donne du courage aux plus découragés. Et voilà, etc. Mère Teresa, le sourire est le début de l'amour. Baden-Powell, le sourire est une clé secrète qui ouvre bien les cœurs. Au guide Larry Gaudy, le sourire est un reflet de joie, il en est source. Voilà, enfin bon, je ne vais pas m'étaler davantage là-dessus. Donc, cette attitude d'ouverture, d'abord, le sourire. Et la troisième chose pour entrer en relation, c'est l'écoute. On pourra en parler des heures, de l'écoute, mais... Voilà ce que dit le pape François. L'écoute, c'est la capacité du cœur qui rend possible la proximité. La capacité du cœur qui rend possible la proximité. L'écoute, il y a, je ne sais plus qui avait formé ce mot. Quelquefois, c'est pas tellement un dialogue qu'on a entre nous, mais plutôt un duologue. Chacun reste dans son discours. Voilà. Et puis chacun repart avec son discours. Il y a des réunions, c'est comme ça. Chacun arrive avec ses idées, tout le monde repart avec ses idées. Mais il n'y a pas eu vraiment de rencontre. Alors, c'est. Voilà. L'écoute, c'est vraiment donner un espace à l'autre en nous. C'est une forme de disponibilité. Ça ne veut pas forcément dire qu'on sera d'accord avec lui, mais déjà d'entendre. Je vous raconte une expérience communautaire. Alors, tous les lundis matin, on a une réunion de communauté. Et alors, on parle et on écoute, normalement, on écoute et on parle. Et je me rappelle en particulier d'une fois, je ne vais pas vous dire le sujet, on parlait d'un sujet, et alors il y avait des idées quand même un peu farfelues qui arrivaient comme ça. Mon premier réflexe, c'était de couper court, et puis non, on va... Et puis, bon, alors il y a des frères qui ont réagi, non, mais on voudrait quand même s'exprimer, ils ont bien raison. Et alors, après, je me suis rendu compte, j'avais un peu peur, je me demandais où ça allait nous mener. Pour moi, ça m'apparaissait un peu surréaliste. Et du coup, je ne dis pas que je le fais bien maintenant, mais maintenant, je laisse dire. Et j'essaye, en tout cas, de laisser dire et de laisser dire jusqu'au bout. Et j'essaye. Et puis, même si ça me surprend ou ça... Et puis après, on peut en reparler. Mais du coup, déjà, c'est de laisser cet espace où l'autre peut s'exprimer, même si ça peut nous chatouiller. Et pendant ce temps-là, je prépare pas tout de suite ma réponse pour... je l'accueille, je le laisse raisonner, etc. Une petite citation des Proverbes. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise et se couvre de ridicule. Je vous citerai quelques proverbes comme ça. Alors, quelqu'un m'avait parlé de... Il y a multiples manières de présenter l'écoute, mais quatre niveaux d'écoute. Et j'aime bien cette manière de présenter. Il y a une écoute automatique. Bon, alors j'écoute, mais derrière, j'ai déjà mes solutions, etc. Et si j'écoute l'autre, c'est uniquement pour qu'il vienne confirmer ce que je crois déjà. Mais voilà, je reste avec mes idées. Donc c'est une écoute automatique. Après, une écoute factuelle, un deuxième niveau d'écoute. Alors j'écoute l'autre et j'écoute ce qui va enrichir mon raisonnement. Et du coup, je suis assez curieux. Je cherche à comprendre et j'essaie de voir qu'est-ce que ça peut m'apporter, ce que me dit l'autre. Ça, c'est un deuxième niveau d'écoute où justement on est déjà l'ouverture est un peu plus grande. Un troisième niveau d'écoute, c'est une écoute empathique. Alors, j'écoute au niveau pas seulement avec ma tête, mais je me situe au niveau du cœur en essayant de me mettre à la place de l'autre. Et alors, j'accepte de me déplacer pour me mettre sur la colline de l'autre ou pour regarder les choses du point de vue de l'autre. Alors là, c'est une écoute à un autre niveau encore. Et puis, un quatrième niveau d'écoute, c'est l'écoute générative. Ça fait savant de dire des mots comme ça. Mais... L'écoute générative, c'est... J'écoute la personne, alors qui suppose les trois premières, écoute, voilà. d'écouter, d'essayer de comprendre, d'avoir cette empathie. Mais j'écoute, au-delà du dialogue qui est en train de se vivre, j'écoute qu'est-ce que le bon Dieu veut nous dire, ou qu'est-ce que, pour moi, c'est qu'est-ce que l'Esprit-Saint, à travers, au-delà de cette discussion, des idées et des échanges qu'on peut avoir, qu'est-ce que le bon Dieu peut nous dire. Et alors, ça, c'est assez précieux d'être attentif au-delà de l'échange avec la personne. On essaie de voir qu'est-ce qui émerge finalement de cette discussion. Voilà. Alors c'est un quatrième niveau d'écoute. Voilà, ça c'était pour la première partie, pour entrer en relation, donc cette ouverture, le sourire et puis l'écoute. Donc des vertus, parce que ça se cultive, ça se cultive bien sûr l'écoute, etc. Après ma deuxième grande partie, la gentillesse. Alors c'est ce qui fait que la relation n'est pas rugueuse, mais plutôt fluide, la gentillesse. Alors il y en a là aussi, il y en a qui sont naturellement, pour qui c'est plus facile que pour d'autres, ça c'est clair. C'est comme un peu le papier cadeau. Il y en a qui disent on peut passer du papier cadeau. Il y a des gens qui trouvent que c'est un peu inutile tout ça. Mais en même temps, non, la gentillesse, c'est vraiment important. Parce que le pape François en parle, toujours dans Amoris Laetitia, au numéro 99. L'amour n'œuvre pas avec rudesse, il n'agit pas de manière discourtoise, il n'est pas dur dans les relations. Ses manières, ses mots, ses gestes sont agréables et non pas rugueux ni rigides. Il déteste faire souffrir les autres. La courtoisie est une école de délicatesse et de gratuité qui exige qu'on cultive son esprit et ses sens, qu'on apprenne à sentir, qu'on parle, qu'on se taise à certains moments. Être aimable n'est pas un style que le chrétien peut choisir ou rejeter. Cela fait partie des exigences indispensables de l'amour. Donc, ce n'est pas facultatif d'être aimable pour un chrétien. Par conséquent, l'homme est tenu à rendre agréables ses relations avec les autres. Ça, c'est saint Thomas d'Aquin qui dit ça. Chaque jour, entrer dans la vie de l'autre, même quand il fait partie de notre vie, demande la délicatesse d'une attitude qui n'est pas envahissante, qui renouvelle la confiance et le respect. Voilà, donc la gentillesse, ce n'est pas quelque chose de facultatif, c'est vraiment quelque chose d'important, on le voit bien dans la communauté. Et je vais développer trois facettes. D'abord, c'est quelque chose de beau, la gentillesse. Après, la gentillesse qui va à l'encontre d'une forme d'arrogance. Et puis après, comment faire pour être gentil quand on est sous pression ? Alors, il y a même une journée de la gentillesse, hein, c'est le 3 novembre, je crois, si mes souvenirs sont bons, une journée de la gentillesse. Donc, il y a des connotations particulières par rapport à la gentillesse. S'il y a une journée de la gentillesse, c'est qu'on pense que c'est plutôt bien, je pense. Mais en même temps, il y a ce livre assez connu, « Cessez d'être gentil et soyez vrai hein. ». Quelquefois, la gentillesse peut nous apparaître comme quelque chose d'un peu bené ou un peu où on se laisse faire, voilà, où on ne sait pas dire non. On fait les choses parce qu'on n'ose pas dire non. Alors, voilà. Mais alors, est-ce que vous savez, au niveau étymologique, d'où vient gentillesse ? Alors, ça vient du latin gentilis. C'est-à-dire le noble, celui qui est bien né. Et en fait, je trouve que c'est intéressant cette étymologie. La gentillesse, c'est une noblesse dans notre manière d'agir. Tenir la porte de quelqu'un qui arrive derrière nous, ça c'est de la gentillesse. Mais c'est une noblesse d'âme. plutôt que de passer, plus les autres, peu importe. L'important, moi, je suis passé, et puis voilà. Tandis que la gentillesse, c'est une certaine noblesse d'âme. Je trouve que ça, c'est beau. C'est une noblesse morale. C'est un peu comme le sourire. On peut s'en passer d'une certaine manière, mais c'est le petit plus qui change quand même beaucoup les choses. La gentillesse, ça, c'est pas grand-chose, mais ça change tout. Je vais vous lire le verset 8 de Saint Paul, verset 8 du chapitre 12 de Saint Paul aux Romains. Donc on est dans la deuxième partie de l'épître aux Romains, la parénèse. Et voilà ce que dit Saint Paul. Celui qui donne, qu'il soit généreux. Celui qui dirige, qu'il soit empressé. Celui qui pratique la miséricorde, qu'il ait le sourire. On voit qu'il y a le fait de donner, c'est bien, mais d'être généreux, c'est le petit plus qui change tout. Celui qui dirige, c'est bien, mais d'être empressé dans la manière de diriger, ça change tout. Et celui qui est à la miséricorde, qu'il ne le fasse pas avec une tête d'enterrement, mais avec le sourire, ça change tout. Donc c'est vraiment la gentillesse, c'est ce qui nous sort du monde de la technique qui est assez froid. Je ne sais pas ce que vous préférez. Je pense que les dames, ils sont plus sensibles encore que les hommes. Soit être devant votre distributeur, vous mettez votre pied, toc, vous ramassez, ou d'être devant, souvent c'est plutôt des caissières que des caissiers, une dame qui vous rend la monnaie avec le sourire ou qui vous rend votre carte bleue avec le sourire. C'est quand même pas la même chose. Vous avez payé, mais c'est ce qui met de l'humanité, un peu. La machine, bon. Et je pense qu'il y a beaucoup, la gentillesse, c'est beaucoup de petits gestes qui peuvent paraître insignifiants dans la vie quotidienne, mais qui changent beaucoup. Ça peut être de dire un petit mot gentil, de renseigner quelqu'un dans la rue, d'aider quelqu'un qui a à traverser, ou de donner un petit coup de main. Voilà. Il y a des petits gestes très simples qui prennent quelquefois un dixième de seconde, mais qui donnent, qui changent les choses. Ça, c'était pour la beauté de la gentillesse. Après, la gentillesse comme qui va à l'encontre d'une forme d'arrogance. Alors, je ne sais pas si c'est bien, mais j'ai à l'esprit, en vous parlant, une secrétaire médicale qui prend les rendez-vous pour le médecin. Et alors, ça me fait presque rire, tellement c'est caricatural la manière dont elle manie ceux qui prennent un rendez-vous avec des gants de boxe. Oui, bon. C'est quand même très étonnant. Bon, comme il a sans doute beaucoup de clients, finalement, ça ne le dérange pas trop. Comme ça, ça fait peut-être un peu le tri dans ses clients. Mais oui, il y a une manière d'imposer les choses sans respecter l'autre. La gentillesse, c'est respecter l'autre. La gentillesse, c'est être conciliant. On voit bien que certaines fois, mais c'est pareil en famille, en communauté, quand les gens ne sont pas conciliants, c'est pénible. Et il faut tout arracher au forceps, etc. Tandis que quand les gens sont conciliants, c'est la gentillesse. C'est quand même plus facile quand ils sont prêts à faire des concessions, etc. Je vous cite Saint-Jacques. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, bienveillante, conciliante, pleine de miséricorde et féconde en bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Et en revanche, l'arrogance, ça abîme beaucoup les relations. Alors, le pape François, le 14 février 2014, a fait un discours, c'était aux fiancés, 14 février. C'est juste un petit extrait que je vous donne, mais je peux, tu permets, c'est une façon gentille de demander d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre avec respect et attention. Il faut apprendre à demander, je peux faire cela, tu aimes bien que nous fassions cela, que nous prenions cette initiative. En somme, demander la permission signifie savoir entrer avec courtoisie dans la vie des autres. L'amour vrai ne s'impose pas par la dureté et l'agressivité. Dans les Fioriti de saint François, on trouve cette expression « Sache que la courtoisie est une des propriétés de Dieu ». Aujourd'hui, dans nos familles, dans notre monde, souvent violent et arrogant, il faut beaucoup plus de courtoisie, et cela peut commencer à la maison. Voilà. La gentillesse, la courtoisie, après il y a plusieurs qualificatifs qui peuvent se rapprocher, mais qui va à l'encontre d'une forme d'arrogance où on s'impose avec dureté. Et puis alors, comment garder la gentillesse quand on est sous pression? Parce que de fait, quand on est sous pression, c'est quelquefois compliqué d'être gentil, et etc. Alors, j'ai pensé à trois pistes. La première, c'est de veiller autant qu'on le peut, après on ne maîtrise pas tout, hein, mais à ne pas être complètement débordé, d'essayer de se garder des marges de sécurité en quelque sorte, des marges de gratuité. Je crois que je vous l'ai déjà cité une fois, mais c'est le Saint Bernard qui conseillait le pape de l'époque, qui lui dit « Méfie-toi, n'en prends pas trop ». Sinon, tu seras invivable. Il faut se préserver des dangers d'une activité excessive. Et il continuait. Les nombreuses occupations conduisent souvent à la dureté de cœur. La dureté du cœur. Et je pense que peut-être ça peut être un point de vigilance de voir comment on peut laisser un petit peu d'espace quand même dans notre emploi du temps pour ne pas être sous pression absolue, parce que souvent on a le désir d'être gentil, mais en même temps sous la pression on peut, c'est l'heure pour partir à l'école, tout ça. Bon, il faut mettre un peu de c'est quand même des choses quelquefois un peu compliquées à gérer, mais voir comment on peut avoir ça présent à l'esprit. Quand c'est trop comprimé, on a du mal à être gentil. Une deuxième piste, c'est de baisser le niveau d'exigence. Il vaut peut-être mieux que ça soit moins parfait et puis de rester plus gentil, sachant que, oui, alors vous connaissez mon adage, mieux vaut un imparfait existant qu'un parfait inexistant. Et j'en ai trouvé un autre, alors c'est dans l'Ecclésiaste. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alors, pour dire, il vaut mieux être un peu plus modeste et puis être vivant plutôt que, en faire trop et puis burn-out et puis pof. Je dévie un petit peu, mais je crois qu'il y a une forme de sagesse à une certaine modération, une certaine sobriété qui fait que ça nous facilite le fait d'être gentil. L'expression qui me traverse l'esprit, c'est à la bonne franquette, quelquefois. On préfère que les choses soient moins parfaites, mais que ça soit... Voilà. Que les gens soient mieux. Quelquefois, on voit, on veut tout bien préparer pour le dîner, mais tellement bien que finalement, on s'énerve et puis ça se termine mal. Alors que, quelquefois, il vaut mieux que ça soit un peu moins bon et puis que... Mais enfin, si je viens chez vous, j'aime bien les bons gâteaux. Bon. Et puis, autre élément qui peut nous aider, peut-être, c'est de resituer l'urgence dans quelque chose de plus large. Parce que abîmer une relation avec quelqu'un, c'est souvent beaucoup plus dommageable qu'un gâteau même pas très bien réussi ou tout ça. Ce qui est important, c'est quand même plutôt la relation. Je me rappelais d'un couple où ça allait pas très bien parce que justement, madame, c'était dans cette situation-là, c'était madame, voulait que sa maison soit complètement impeccable tout le temps. Mais avec les enfants et tout ça qui revenaient c'était à la campagne, du coup, la vie était invivable, ça je peux vous le garantir. Voilà. Alors, quelquefois, baisser le niveau d'exigence et resituer, bien voir quelles sont les priorités, qu'est-ce qu'on veut finalement. Parce que je crois que quelque part, je crois que tout le monde désire être gentil, enfin, j'imagine, mais. Troisième grande partie, le service. Vous savez, je pense que c'est vrai en famille comme en communauté, c'est pas la même chose si tout le monde se défile au moment où il y a besoin de faire des services ou tout le monde se propose. Et on voit bien qu'il y a certaines personnes qui se proposent très volontiers et d'autres, il faut vraiment aller les chercher. Bon, à ce moment, ils le font le service, mais. Enfin, ça rejoint peut-être aucune situation vécue, je ne sais pas. Enfin, ça, ici, ça rejoint quelques situations vécues, je dois avouer. Mais, donc, c'est pas... Parce que tout le monde n'a pas le même sens du bien commun. Tout le monde, voilà. Il y en a vraiment qui sont toujours prêts à rendre service, et c'est un bonheur. Voilà. Et le pape François nous invite beaucoup à ne pas rester sur nos balcons, en train de faire nos commentaires là. Vous connaissez la fable du conseil des rats aussi. Le conseil des rats. Alors c'est il y a le chat, je sais même plus comment il s'appelle. Le chat, il s'appelle Rodilardus. Rodilardus fait beaucoup de dégâts chez les rats hein, parce qu'il en attrape pas mal et les rats se demandent comment l'attraper et tout ça. Donc jusque-là, tout le monde est d'accord, et puis il trouve l'idée géniale, on va lui attacher une clochette, comme ça, quand il arrivera, on l'entendra, et puis on aura le temps de se sauver. Sauf que, bon, maintenant, pour discuter, tout le monde est d'accord. Hein. Qui va accrocher la clochette? Ah là, il n'y a plus personne. Voilà, alors c'est comme ça, j'imagine, dans la vie de famille, quelquefois, on a des super idées. Et qui va le faire maintenant? Là, c'est le calme. On est tranquille, plus personne ne bouge. Voilà, alors, du coup, le service, c'est justement c'est celui qui est prêt à rendre service, c'est celui qui arrête de rester sur son mirador hein, pour regarder, ou qui reste de rester dans les gradins, mais qui va s'impliquer concrètement. Parce que la charité, c'est Saint-Jacques qui nous dit « Mais montre-moi ta foi qui n'agit pas et puis sois un peu plus crédible. » Alors, c'est la première épître de Saint-Pierre. C'est Saint-Pierre qui dit, c'est au chapitre 4, au verset 10, « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Si celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ. Je trouve que c'est assez beau, donc, de voir, voilà, j'ai reçu des dons de la grâce, mettez-le, je le mets au service des autres. Ça, c'est vraiment profondément évangélique, c'est vraiment de ne pas rester... On a eu un week-end, le week-end dernier, c'était un week-end avec les jeunes professionnels. Et le titre du week-end, c'était « Connaître ses talents pour mieux se donner ». Voilà. « Connaître ses talents pour mieux se donner ». La première partie, ça peut être un peu nombriliste, « Connaître ses talents ». Mais alors, du coup, l'insistance, c'était dire, c'est le petit mot au milieu, c'est « pour la finalité ». C'est bien, le développement personnel, c'est très bien, j'ai rien contre. Sauf si ça s'arrête, la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais elle finit pas par soi-même. Sinon, y a un problème. Donc, qu'on commence par voir ses talents, c'est très bien, et je pense que c'est. Mais c'est pour se donner. C'est pas pour se trouver bien, être épanoui. C'est pas le but. C'est pas le but. Et on s'épanouit justement en se donnant aux autres. Et la serviabilité, hein, ça fait partie des fruits de l'esprit, amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, hein, ça fait partie des fruits. Voilà, donc, serviabilité. Alors là aussi, trois choses que je voulais dire, c'est se donner aux autres, après c'est aussi s'aimer soi-même, et puis de voir les motifs pour lesquels on est serviable. Alors, se donner aux autres. Dans beaucoup, si vous regardez des sites sur la psychologie, l'amour des autres est quelquefois un peu écorné parce qu'on dit oui, non, les chrétiens, ils se donnent aux autres, mais ils s'oublient eux-mêmes et il ne faut surtout pas s'oublier soi-même. Ça part de vérité, mais le pape François dit les choses de façon assez carrée, comme il sait le faire. Je vous cite le pape François, il se réfère à saint Thomas et tout ça. Thomas d'Aquin expliquait qu'il convient davantage à la charité d'aimer que d'être aimé. Et que de fait, les mères chez qui se rencontre le plus grand amour cherchent plus à aimer qu'à être aimées. C'est pourquoi l'amour peut aller au-delà de la justice et déborder gratuitement sans rien attendre en retour, jusqu'à atteindre l'amour plus grand qui est de donner sa vie pour les autres. Cependant, ce détachement qui permet de donner gratuitement et de donner jusqu'à la fin, est-il possible ? Il est certainement possible, puisque c'est ce que demande l'Évangile. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc, oui, il faut, on est appelé à se donner. Et c'est ce qui est premier, l'amour dans la finalité, dans l'ordre de la finalité, l'amour des autres passe avant l'amour de soi. Après, dans l'ordre d'exécution, l'amour de soi passe avant l'amour des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, je vous cite encore le pape François, toujours dans Amoris Laetitia. Une certaine priorité de l'amour de soi-même peut se comprendre seulement comme une condition psychologique, en tant que celui qui est incapable de s'aimer soi-même rencontre des difficultés pour aimer les autres. Et il cite le Siracide, « Celui qui est dur pour soi-même, pour qui serait-il bon ?» Donc voilà, s'aimer soi-même, bien sûr, mais après, la finalité, c'est d'aimer les autres. Vous vous rappelez, je crois que c'est la dernière fois que j'ai dû le citer, le Saint Bernard qui dit d'être une vasque et non pas un canal. C'est un texte de Saint Bernard où il dit « Te vide pas tout de suite pour te donner. Sois aussi. Accepte de prendre le temps de te remplir avant de te vider. » Donc, c'est important de reconnaître ses propres besoins, bien sûr. Hein. Donc, s'aimer soi-même, c'est important. Et de reconnaître ses propres besoins. Je ne sais pas si je vous raconte ma vie. Non, je raconte un épisode qui illustre aussi que quelquefois, on peut être. Gentil, un peu idiot. C'était mon cas dans cette circonstance précise. C'était en Italie il y a plus de 30 ans. On était allé sur la plage avec les autres frères et puis je me baignais, puis j'ai froid, je sors. Puis il y a un autre frère qui n'y était pas allé encore. On dit si, viens, parce que voilà. J'y vais. Mais après j'étais frigorifié, il m'a fallu des heures pour me réchauffer. Donc ils ont eu un peu peur à ce moment-là parce que voilà. Alors je me dis voilà, la gentillesse c'était aussi d'être gentil avec moi. D'abord, gentillesse bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça veut dire qu'il faut écouter aussi ses besoins. Je pense que c'est en ça que c'est juste quelquefois ce qu'ils peuvent dire au niveau de parce que si on n'écoute pas ses besoins, on explose d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre. Donc, mais la finalité, c'est de se donner aux autres. C'est encore Saint Bernard qui disait au pape, « Occupe-toi des autres, mais ne t'oublie pas toi-même. » Et c'est aussi une marque d'humilité de savoir exprimer aux autres nos besoins, nos envies, nos désirs. Je pense que c'est, de ce point de vue-là, c'est bien. Et toujours pour le service, c'est quels sont les motifs. C'est toujours intéressant de savoir les motifs pour lesquels on rend service. Est-ce que je me donne le droit de dire non ? Alors, ce n'est pas le non bête, non pour dire non. Mais est-ce que j'ai peur de dire non et c'est pour ça que je rends service? C'est pas ça le motif. Si mon motif pour rendre service, c'est que j'ose pas dire que je peux pas, c'est pas un motif valable. C'est est-ce que je peux le faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que... Alors, c'est clair, ça n'empêche pas que certains services vont nous coûter un peu. Hein. Il ne faut pas rendre que les services qui ne nous coûtent pas. Je ne dis pas ça non plus. Mais en même temps, si on se donne vraiment, pas à contre-cœur. Bon, je fais le service parce que je n'ai pas osé dire non, mais j'aurais pas dû le faire. Alors, il ne fallait pas le faire à ce moment-là. Mais du coup, pas faire les choses à moitié. Je pense que faire les choses à moitié, ça... ça ne nous comble pas. Et on ne le fait pas aussi bien que si on le fait avec tout notre cœur. Alors ça, ça demande un discernement. Et puis ça demande un apprentissage aussi pour apprendre à dire non. Pour certains, il n'y a pas besoin de leur apprendre. mais pour certains, il faut vraiment leur apprendre. Il faut vraiment qu'ils apprennent à dire non sans s'énerver et tout ça, avec un sourire. Mais dire, non, je ne peux pas. Et de ne pas avoir peur de demander, j'ai peut-être besoin d'un peu de temps de réflexion avant de dire oui ou non. Bien sûr, je vais en parler à mon mari avant de... En tout cas, les motifs pour lesquels on rend service, de clarifier aussi un peu ces motifs. Encore une fois, c'est bien, l'Évangile nous invite à être serviables, etc., mais pas n'importe comment. Quatrième point, remercier et valoriser les autres. Alors, trois éléments que je voudrais dire, c'est remercier, apprécier les dons et les qualités et employer des paroles valorisantes. Remercier, je trouve que dans la... société actuelle, sans doute plus qu'avant, ça arrive assez souvent que les gens oublient de remercier. Même si on ne fait pas les choses pour être remercié. Mais quelquefois, on se dit, c'est quand même une expérience. Comme je vais à Assise, chaque année, je me force. Hein, c'est un gros sacrifice, mais bon. J'y vais quand même, je l'assume avec le sourire. Alors, il y a des gens qui le savent et donc ils me demandent des renseignements sur Assise. Et quelqu'un m'avait demandé des renseignements. Du coup, j'avais pris quand même un petit peu de temps pour lui donner les renseignements. Je ne sais jamais s'il a reçu mon courrier ou pas. Je n'ai jamais su. Alors après, je me suis dit, la prochaine fois... Je ne le faisais pas pour être remercié, c'était pas. Mais je trouve que c'était un peu court. Mais ça, c'est des choses qui arrivent souvent et qui peuvent m'arriver aussi. Je vous lis toujours de cette quelques lignes du pape François du 14 février 2014. Merci. Il semble que ce soit facile de prononcer ce mot, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Pourtant, c'est important. Nous l'enseignons aux enfants, mais ensuite nous l'oublions. La gratitude est un sentiment important. Savons-nous remercier ? Je ne vais pas détailler, mais voilà. Remercier, apprécier les dons et les qualités des autres. Je cite le pape François, toujours en 2014, mais le 22 octobre. L'apôtre Paul a donné aux Corinthiens certains conseils concrets qui valent également pour nous. Ne pas être jaloux, mais apprécier dans nos communautés les dons et les qualités de nos frères. Que dois-je faire alors? Apprécier dans nos communautés les dons et les qualités des autres, de nos frères. Ou encore le pape François, le véritable amour valorise les succès d'autrui. Il ne les sent pas comme une menace, il ne se libère du goût amer de l'envie. Voilà, ça c'est remercier, apprécier les dons et les qualités et employer des paroles valorisantes. C'est le regard de Dieu qui bénit, hein, un regard de bénédiction, dire du bien. Une fois, on avait fait l'expérience dans un pèlerinage. J'avais invité les couples qui étaient là à penser dans la prière à telle ou telle qualité ou tel merci qu'ils voulaient dire à leur conjoint. Donc, donc c'était très bien. Et puis un frère qui était là dit « Mais on pourrait le faire aussi entre nous !» Bon, oui, allez. Et puis, le lendemain, donc on marchait un peu, c'était d'échanger. Une chose, c'était au niveau de nos têtes, hein, d'y penser. Et le lendemain, c'était au niveau de l'échanger, de dire à l'autre les qualités, tout ça. Et là, c'était pour moi une prise de conscience quand même assez forte que le penser, on y arrivait assez bien. Le dire, il y a une marche beaucoup plus haute. Je ne sais pas pour vous, peut-être pas pour vous, vous le dites peut-être très volontiers, mais spontanément, je crois que le penser, on y arrive, hein, sauf dans des cas un peu compliqués, mais le dire, quelquefois, on a un peu de mal. Et c'est dommage, parce que c'est vrai que ces paroles valorisantes, c'est un carburant qui nous fait vivre, qui nous fait avancer. Et c'est important dans l'éducation, entre autres. Je crois qu'il y a eu des études de fait sur les régimes alimentaires. Et semble-t-il, c'est quand même beaucoup plus efficace de valoriser les régimes, les manières de manger qui sont bonnes, que de faire des injonctions, tu ne dois pas prendre telle et telle chose. Il paraît que ce n'est pas très efficace, finalement. Tandis que valoriser une bonne manière de manger, c'est beaucoup plus efficace. De fait, je crois qu'on en fait l'expérience aussi dans nos communautés. L'encouragement est souvent plus efficace que des remontrances. Et des gens comme Don Bosco, voilà, ils savaient faire confiance pour avancer. Donc, remercier et valoriser les autres, c'était la quatrième grande partie. Dernière partie, la cinquième. Supporter le mal et ce qui est difficile. Et alors là, je vais vous parler de la patience, du pardon et de l'amour qui supporte tout. La patience. C'est peut-être pas un hasard que si vous regardez le petit extrait de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, des versets 4 à 7, la première qualité de l'amour, c'est la patience. La dernière, c'est encore la patience. Ça veut dire que c'est un peu de... Je vous recite encore le pape François. La patience est la qualité que le Pentateuque attribue à Dieu lorsqu'il dit de Dieu qu'il est lent à la colère. Cela se révèle quand la personne ne se laisse pas mener par les impulsions et évite d'agresser. Et il se réfère au texte de la sagesse. Tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. La patience, c'est vraiment une preuve de force et non pas une faiblesse. La patience, c'est vraiment une force. D'ailleurs, je vous l'ai déjà évoqué, cet horizon du 26e dimanche ordinaire que vous connaissez par cœur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta patience lorsque tu patientes et prends pitié. Sans te lasser, accorde-nous ta grâce. La preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes. Alors vous pouvez toujours y penser. Hein. Alors la patience, ça suppose de travailler sur soi parce que sur ses frustrations, etc. Parce que clairement, c'est surmonter une frustration. Dans bien des situations, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, tout ça. Il faut qu'on prenne sur soi. Et la patience, c'est d'abord... Donc ça demande vraiment un travail sur soi. Alors, une petite citation des Proverbes, 16:32. Mieux vaut un homme patient qu'un héros, un homme maître de soi qu'un preneur de ville. Je vous l'ai déjà cité, hein, celle-là. Voilà. Je l'aime bien. Et la patience, c'est vraiment une force quand il y a un changement à opérer, je pense, au niveau familial, communautaire, tout ça. La patience est beaucoup plus efficace que si on veut... Quand on brutalise un peu les choses, il y a des portes qui nous reviennent dans la figure, etc. Donc la patience, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force. Pour supporter ce qui est difficile, et voilà, pour... Le pardon, alors, et le pardon, ça ne va pas de soi. Je vous cite encore le pape François. Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est facile. La vérité est que seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Et il citait le pape Jean-Paul II. Voilà. Le pardon passe par une forme de sacrifice, hein, c'est clair aussi. Et l'amour qui supporte tout, bon, ça rejoint un petit peu la patience dont je parlais. Hein. C'est surmonter le mal par le bien. Voilà. Et dans ce domaine, c'est Jésus notre modèle par excellence. Alors, donc, ça, c'était toutes des vertus qui, à première vue, peuvent apparaître modestes, mais qui apparaissent vraiment dans les lettres de Saint Paul, de Saint Pierre, etc., comme une concrétisation de notre foi en Jésus qui est victorieux du péché et de la mort. Je pense que de mieux les vivre, hein, ça peut donner un avant-goût du ciel à nos familles, à nos communautés. C'est vrai que ça change tout quand on vit ces petites vertus, entre guillemets. Et je pense déjà, soi-même, quand on a le sentiment d'être gentil, etc., ça nous fait du bien, tout simplement, parce qu'on est fait pour ça. Hein, on est fait pour ça. Tandis que quand on a été désagréable, on n'est pas spécial... Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas vraiment fier de moi quand j'ai été désagréable, etc. Tandis que... Voilà. Et puis, ça entraîne, on voit que c'est un effet domino dans une famille, dans une communauté, quand on est sympathique, ben les autres, ça leur donne envie aussi de faire de même, etc. Et du coup, il y a un peu une spirale vertueuse qui se met en place. Hein, qui, vous rappelez cette phrase de Jésus qui apparaît 5 fois dans l'Évangile. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Donc voilà, soit on prend la spirale dans le bon sens, soit dans le mauvais sens. Voilà. Alors je conclue ici. Après, j'ai quelques trop de choses à dire, mais vous avez peut-être des questions avant.
Est-ce que ça ne peut pas se résumer par charité ?
Oui, en fait, oui, c'est... C'est la charité, différentes facettes de la charité, on pourrait dire tout simplement. La charité, c'est bien de voir des facettes variées, comme ça on voit plus combien la charité est quelque chose de riche et de... Voilà, de... Vous voulez ?
Oui, non, je pensais, en fait, ça c'est difficile pour en famille, à part en plus contre les gens, mais
vous êtes sans doute plus experte que moi. Oui.
Moi, je rajouterais que la école, elles sont de plus en plus méchantes, cruelles. Et ça, toutes les maîtresses me disent depuis 2 ans. Donc, ça impacte aussi notre vie de famille, puisqu'ils répètent ce qu'ils entendent à l'école.
Alors, on peut quelquefois les aider à prendre conscience. Tu préfères l'ambiance à l'école ou tu préfères quand pour que, expérimentalement, pour ainsi dire, ils se rendent compte que c'est quand même autre chose de vivre quand c'est fluide dans nos relations ou alors quand on se tire dessus les uns les autres. C'est quand même pas... Je pense qu'il... Alors, ça dépend sans doute de leur âge, etc. Mais je pense qu'il y a des choses... On peut leur faire toucher du doigt. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu aimes quand les relations sont méchantes, etc. Ou qu'est-ce qui... Et bien sûr, toi, t'es appelé aussi à prendre part aussi, à donner aussi ta... Oui.
Je peux partager une méthode que j'enseigne aux enseignants qui travaillent sur le harcèlement et qui fonctionne vraiment bien, et je l'utilise chez moi aussi, mais c'est pas vraiment parfait. C'est quand on est face à quelqu'un qui a un enfant intimidateur, on le rend tout seul, et on lui dit, est-ce que tu l'as constaté que un tel ne va pas bien? Oui, non, écoute, tu regarderas. Puis on se revoit peut-être en famille, c'est peut-être le lendemain ou ce lendemain. Et quand après le moment on dit oui, je constate que un tel en effet a l'air de bien aller, voilà, il est en France, c'est comme ça, non, absolument. Qu'est-ce que toi, tu peux mettre en œuvre pour t'aider à l'aider? Moi, je trouve que c'est de la gentillesse et ça marche. On résout 85%, 70% des cas de harcèlement juste avec ces deux questions. Donc, je trouve ça très chrétien.
Oui.
Excusez-moi. Par rapport au pardon et à cette question de la gentillesse, je trouve que chez beaucoup de catholiques, il y a un peu une sorte de fléau où en fait on peut nous faire croire qu'il faut donner son pardon, alors qu'à mon sens, il faut d'abord essayer que la personne nous demande pardon avant de donner son pardon. Et il y a aussi le côté où c'est peut-être plus les générations au-dessus. Ou dire ce qu'on pense est considéré comme méchant. Par exemple, ma maman, si je vais lui dire non, je ne vais pas faire ça, elle ne sait jamais le dire, parce que selon elle, ce n'est pas gentil, ce n'est pas charitable. Et du coup, c'est vraiment important effectivement de connaître ses besoins, connaître ses limites, et de ne pas donner son pardon à tout le monde, parce que notamment dans le harcèlement, moi, ça m'est arrivé en fait de pardonner tout le temps à la personne. En fait, non, il était juste en train de me harceler et je n'ai pas été capable de voir parce que j'avais ce prisme un peu d'animal de la religion catholique qui m'a empêché de voir qu'il me faisait du mal et que je ne devais pas me pardonner, enfin, que je devais fuir.
Alors. Il faut distinguer le pardon et la réconciliation, hein, c'est pas la même chose. Jésus nous invite à pardonner, et ça c'est incontournable. En revanche, la réconciliation c'est autre chose, il faut être deux pour se réconcilier. Et le père Montbourquette en parle bien dans son livre sur le pardon en disant, alors il y a 12 étapes, et la dernière c'est, alors ça surprend un peu au prime abord, rompre la relation ou la retisser. Et il dit bien que dans certains cas, il faut fuir à toutes jambes. Et on n'a plus de relation avec cette personne parce que qui peut avoir une emprise sur nous d'une manière ou d'une autre et on sait que ça va nous détruire. Donc Jésus nous appelle à lui pardonner, mais à rompre les liens. Quelquefois nous on, et c'est pas la même chose. Se réconcilier ou pardonner, c'est pas la même chose. Si on pardonne pas aussi, ça nous détruit. C'est un peu quelque chose qui nous ronge intérieurement. Jésus. Mais c'est le pardonner, c'est pas non plus, c'est pas le déni, c'est pouvoir nommer le mal, parce que sinon, c'est pas un coup d'éponge, c'est pas ça le pardon, C'est voir aussi la blessure, qui pouvoir la nommer, pouvoir le. Et voilà, bon, mais ça nous entraînerait plus loin. Mais c'est vrai que quelquefois on a une vision un peu simpliste du pardon et qui ne nous fait pas de bien. Ça, c'est vrai.